on va démarrer ce café de la ville délocalisé ici à Coutances. Donc je me présente, je suis Marie-Pierre Bernard, je suis architecte et je suis membre de la Maison de l'Architecture.
Je m'appelle Lucille Grésillon, je suis maître de conférence à l'Université de Caen. On organise ces cafés depuis 2007 à raison de 4 par an. Et donc c'est dans le cadre du pôle ville de la maison de la recherche en sciences de l'homme.
Nous sommes réunis aujourd'hui à Coutances pour un café de la ville dont le thème est Habiter Coutances. Alors je vais dire la ponctuation parce que c'est important. Habiter Coutances de point, comment on y arrive, entre parenthèses ou pas. Donc c'est la première fois que nous faisons l'expérience d'organiser un café de la ville dans une autre ville que celle de Caen. Nous vous remercions donc pour votre accueil. Et donc, on a 3 intervenants qui viennent pour alimenter le débat ce soir. Donc, nous avons Delphine Fournier, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Elle est conseillère municipale de la ville de Coutances. C'est elle qui nous a invités, d'ailleurs. Il y a Nicole Mathieu, qui est directrice de recherche CNRS émérite en géographie. Et puis, Lionel Rouget, qui est enseignant-chercheur en géographie à l'Université de Caen.
Alors, je vais juste faire un petit rappel de notre texte de présentation. Qu'implique habiter une petite ville de campagne, entre guillemets bien sûr, en termes de loisirs, de sociabilité et de travail? En effet, on connaît tous Coutances pour son dynamisme culturel, en particulier pour son festival Jazz sous les pommiers. Toutefois, du point de vue culturel et politique, il y a-t-il une diversité suffisante? La question en effet du contrôle social se pose. Quand tout le monde se connaît, est-ce étouffant d'y vivre? Y a-t-il un bassin d'emploi suffisant pour y travailler? Comment habite-t-on le pays coutançais, en centre-ville, en périphérie? Comment pratique-t-on le centre-ville? Du point de vue des Parisiens, entre guillemets toujours, et des Anglais qui s'installent dans le bocage coutançais, quelle place tient l'image de la région et de la ville? Comment vit-on en Orsin? Arrive-t-on à trouver sa place? Y a-t-il une évolution dans la perception de Coutances au bout de quelques mois passés sur place? Est-ce que la vision de l'ambivalence, repos, ennui, qu'illustrait si bien une vieille chanson de Dick Annegard, est toujours d'actualité?
Voilà, donc maintenant on va poser les questions à Delphine, qui est la première à intervenir. Donc les 4 questions sont les suivantes. Qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de vous installer à Coutances? Est-ce que votre connaissance de l'aspect culturel a été importante? Question un peu personnelle, c'est aussi le point de vue de votre génération d'arrivants qui nous intéresse. Pouvez-vous nous décrire rapidement l'organisation politique du pays coutançais? De votre point de vue d'élu et d'habitante, quels sont les enjeux de développement de ce territoire? Et quel retour pouvez-vous faire sur votre insertion dans le tissu social local?
Cette discussion sur Coutances, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je suis élue au conseil municipal de Coutances depuis 2008 et que je trouve qu'il y a un déficit terrible de communication autour des enjeux de la ville. Pourquoi j'ai ce regard-là? Parce que je ne suis pas une native de Coutances. Donc je suis arrivée en 2002 dans cette ville pour des raisons professionnelles. En fait, je suis arrivée dans la Manche, j'ai été embauchée dans la Manche et j'ai traîné toute ma famille avec moi, qui a eu la gentillesse de me suivre. Et j'ai choisi, en fait, j'avais aucune idée de l'endroit où habiter. J'avais trouvé un travail à Saint-Lô. Et en fait, la Coutances, c'est uniquement parce que j'ai trouvé une place en crèche pour ma fille à Coutances. Mais j'avoue qu'à l'origine, j'avais fait une demande à 40 ans à Saint-Lô. Et j'étais prête à aller n'importe où pourvu qu'il y ait une place en crèche pour ma dernière fille qui avait 18 mois quand je suis arrivée ici. Donc, comme quoi... Ce genre d'équipement, ça influence énormément sur le choix de vie des familles qui arrivent. J'avais pas du tout d'a priori sur Coutances, je connaissais absolument pas très mal la Manche, je savais pas combien il y avait d'habitants à Coutances en venant m'installer ici, donc un regard vraiment neuf. Et sur la question de la culture, par exemple, puisque Coutances est très réputé, pour tout vous dire, je ne savais pas qu'il y avait un festival de jazz quand je suis arrivée ici. Et quand la première année où j'ai habité ici, j'ai vu tout ça s'installer sous mes fenêtres, j'en revenais pas. Donc le rayonnement culturel, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément le premier choix. Après un temps d'adaptation dans cette ville, etc., mes enfants, ma dernière fille y est née et... J'ai commencé à y faire ma vie et j'ai eu envie de m'intéresser à la vie publique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur une liste qui était la liste aux élections municipales de 2008, qui était la liste Coutances, un autre choix de vie, qui était une liste orientée à gauche, avec une tête de liste encartée chez les Verts, qui était aussi une liste assez ouverte avec des noms encartés, avec une certaine utopie sur faire de la politique autrement. Avant d'être élue, j'étais à peu près dans la position de tout le monde, c'est-à-dire j'étais très consommatrice de ma ville, d'espace, de mon espace urbain, etc. Mais je ne me posais jamais la question de comment les décisions étaient prises. J'étais jamais allée voir un conseil municipal avant. J'en avais vu parce que professionnelle, par ma profession, j'avais été invitée à intervenir. Mais je m'étais jamais mise dans la peau d'un élu. J'imaginais pas à quoi ça pouvait ressembler. J'avais pas d'a priori là-dessus. Donc me voilà arrivée dans un conseil municipal d'une ville de 9600 habitants. Je suis aussi élue à la communauté de communes, puisqu'en fait les villes maintenant sont toujours prises dans un maillage un peu plus grand qui est le PCI, la communauté de communes. Ici, elle s'appelle la 4C. Elle regroupe, alors du coup, cette fois-ci, ça fait un territoire de 12 000 habitants avec une spécificité très coutançaise, c'est-à-dire que vous avez une très grosse ville qui a 9600 habitants, c'est Coutances. Et autour, vous avez un maillage de 6 petites communes qui, elles-mêmes, ont 2500 habitants. C'est comme si vous aviez une grosse planète et peut-être des petites communes en orbite. Et c'est difficile de faire une équipe avec un très gros et des petites. Ça, c'est mon sentiment. Et en plus, la communauté de communes, c'est un lieu un peu étrange parce que les gens qui y siègent ne sont pas élus au suffrage direct. Ils sont mandatés par les conseils municipaux des différentes communes. Donc en fait, on y prend beaucoup de décisions importantes, mais les habitants de Coutances ne votent pas n'élisent pas directement leurs représentants dans cette structure. Coutances fait partie aussi du pays de Coutances, donc d'un réseau de 9 communautés de communes. Donc moi, en tant que simple élue de base, je ne peux pas vous parler, mais c'est quand même une institution dont je pense que les gens ont du mal à le citoyen moyen a du mal à évaluer ce que c'est, ce que ça veut dire, ce que ça recouvre. C'est mon sentiment. Hein. Donc si je vous ai pas dit qu'il y a 29 conseillers municipaux à Coutances, donc parmi les 29, on en élit un qui est le maire, Monsieur Lamy, que la répartition à la suite des élections, puisque je vous parle, il y avait 3 listes qui se présentaient. Donc une liste du maire sortant qui était apparentée UMP droite, qui a eu 51,5% des sièges. La liste verte, des voix, pardon, verte, rouge, rose et de toutes les couleurs a eu 30% des voix. Et la liste du centre a eu 18,5%. Donc ça donne une répartition, ça c'est un peu curieux dans le fonctionnement politique, c'est que la répartition pour que la commune soit gouvernable, en fait, celui qui a la majorité gagne un bonus de sièges très important. C'est-à-dire que là, il n'y a que 6, il y a que sur les 29 sièges, il y en a 23 pour la liste qui a eu 50%, 51%, et le reste est réparti, reste 6 sièges répartis sur ceux qui ont 49%. Donc ça pose quand même déjà une question en soi, à mon avis, de représentation. Il y a une politique qui est menée. Moi, je considère que tout le monde a le droit de parler. J'aime pas trop la caricature, mais on est toujours enfermé dans cette caricature. C'est-à-dire, on vous dit toujours d'où tu parles, d'où tu donnes ton avis. Si tu la donnes d'une certaine couleur politique, c'est tout de suite on est jugé. C'est difficile d'avoir une parole libre. Par contre, c'est un territoire qui est quand même intéressant parce que, en tant que tel, c'est un territoire qui a des tas d'atouts. Parce que c'est vraiment la micro-ville, c'est la première structure de ville. On n'est plus dans le village, mais à 10 000, on n'est pas encore dans un gros noyau urbain. Finalement, tout est très directement, on sait ce qui se passe dans notre ville, on est très proches les uns des autres, elle est tellement petite. C'est une ville reconstruite, là je parle pour l'aspect, l'urbanisme, c'est quand même particulier les villes reconstruites. Ça a une structure particulière, une structure urbaine particulière. Et c'est une ville qui a un hyper-centre, là on est en plein dedans avec sa cathédrale, etc. Et ensuite, qui a au cours des années 70-80, a connu l'émiettement, l'étalement urbain des zones pavillonnaires qui s'installent autour de cet hyper-centre. Et donc, qui crée des problèmes, je pense que toutes les villes moyennes en France connaissent de liens entre le centre ancien, où ça se passe, entre guillemets, où il y a les monuments, les administrations, et puis la couronne un peu pavillonnaire résidentielle, et ensuite l'autre problématique, qui est, c'est celle des commerces, des zones commerciales et des zones d'activité qui vont s'étendre. Comment on lit tout ça, comment on donne une cohérence à tout ça, par exemple, c'est un enjeu, c'est un problème de Coutances, mais qui est très banal, hein. D'autres villes ont ce problème-là. Moi, les sujets dont j'aimerais juste parler, mais après on pourra en reparler, mais qui pourraient lancer le débat sur la ville, c'est aussi une ville dont le centre a tendance à se dépeupler au profit de la structure pavillonnaire. C'est une ville aussi qui a un quartier de logement social, le quartier de Clairefontaine, que les Coutançais connaissent, qui est un ensemble de bars de logements très très typiques de cette déconstruction du zonage urbain des années 70. Bon, ça, pour moi, c'est un enjeu de la ville, c'est que ce quartier est un peu ghettoisé par rapport à l'hypercentre, et personne ne se pose encore vraiment la question du lien, de la soudure qu'on peut faire. En fait, on est dans une problématique que des villes de 20, 30 000, 40, 50 000 habitants connaissent, mais ici, c'est tout en minuscules. Donc c'est la même chose, mais en minuscule. Et le problème du lien entre ces quartiers, par exemple, qui n'est pas seulement un lien urbain, hein, social, culturel, etc., c'est pas du tout, pour moi, là, on n'est pas du tout dans un schéma satisfaisant, en tout cas. L'autre chose, c'est que c'est un territoire qui a beaucoup de mal à... Ça, c'est mon sentiment en étant extérieur. Enfin, en étant extérieur et intérieur, mais en ayant vécu ailleurs, avant, etc. Pour moi, c'est un territoire, cette ville de Coutances, c'est un territoire qui a beaucoup de qualités intrinsèques, mais qui a beaucoup de mal à les évaluer et à en tirer parti. Par exemple, il y a une affaire qui a secoué, petite affaire, micro-affaire pour les gens de l'extérieur, mais très grande affaire pour Coutances. Coutances a une prison et un pôle judiciaire. Coutances a renforcé son pôle judiciaire et a récupéré des tribunaux qui ont été fermés ailleurs. Et en fait, il y avait depuis 200 ans une prison à Coutances qui est ancienne et qui mérite un réaménagement pour pouvoir continuer à fonctionner. Et on a appris il y a un mois qu'en fait on perdait la prison et que la prison allait s'installer à Saint-Lô. Et donc, moi j'ai eu un conseil de communauté de communes où les élus étaient assez consternés. Tout le monde y allait de son petit mot pour regretter la perte de cette prison, etc. Et parmi les élus de Coutances, il y a un monsieur qui est un peu plus poète que les autres, qu'à le dire. Et en fait, il a fait tout un discours en disant « Bien triste, c'était la ville qui construit son développement sur une prison ». Il y a peut-être autre chose à faire chez nous. On vit quand même au XXIe siècle. Il y a d'autres façons de penser, d'autres façons d'habiter, d'autres questions à se poser. Il y a des richesses ici. On peut peut-être jouer notre développement sur les énergies renouvelables, sur d'autres façons d'habiter, sur... j'extrapole un peu sur son discours, mais c'est un pôle de formation, Coutances. Il y a énormément d'établissements scolaires. Il y a plusieurs lycées technologiques. Il y a le Greta, il y a l'AFPA, il y a de la formation continue. Donc, en fait, il essayait simplement de dire, ça va, quoi. On peut peut-être, nous aussi, on a notre fierté. On peut peut-être arriver à faire quelque chose avec ce qu'on a. Et tous les élus mais sincèrement, tout le monde a rigolé. Hein, moi, je suis allée voir à la fin en disant, t'es le seul type à avoir dit un truc intelligent ce soir. C'est dommage que ça fasse rire les gens. Et en plus, je reprends son discours parce que c'est pas le mien. C'est quelqu'un qui est originaire d'ici. C'est quelqu'un qui est un homme plus âgé que moi, etc., plus posé, qui est là depuis longtemps, qui est élu de Saussay. Et donc une petite commune qui appartient à la communauté de communes. Donc pour dire, tout d'un coup, ça m'a paru aberrant ce discours. On l'aurait tenu ailleurs, je pense, dans une grande ville. Et voilà, on a des tas d'atouts. On est proche de la mer. Il y a la vie culturelle que vous avez évoquée. Il y a les pôles de formation. On n'a peut-être pas d'atouts industriels. Voilà. Moi, je nous comparerais presque en Autriche, le Vorarlberg qui est très en avance, par exemple, sur la construction environnementale. C'était des pays qui ont un développement parce qu'ils avaient rien. Alors parfois, quand on a très peu de choses, quand on est très isolé, on tire de ses propres ressources. Et on avance et on se développe comme ça.
J'espère que vous allez tous les applaudir comme ça. Donc des questions maintenant à Nicole Mathieu, habitante de l'espace rural environnant à Saint-Denis-le-Gat. Quelle place a tenu l'image de la région dans votre installation ? Donc c'est également une question un peu personnelle qui va venir compléter donc le point de vue de Delphine Fournier, puisque en plus votre installation est antérieure. La question du hors-sein, est-ce une question pertinente de votre point de vue de chercheur ? Qu'est-ce que cela peut apporter comme élément de compréhension sur ce territoire ? En quoi vous considérez-vous comme inséré ? Habiter le bocage coutançais, en quoi on y arrive ou pas ?
Bien, l'installation n'était pas vraiment programmée. Elle a été relativement aléatoire. Bien sûr, étant moi-même géographe, je connaissais le pays coutançais, le bocage coutances, peut-être pas trop les jas sous le pommier, mais en tout cas la cathédrale, et puis par Pierre Brunet et les géographes de Caen, on avait beaucoup circulé dans le bocage de Coutances. Je connaissais la qualité du paysage, je connaissais aussi le fait que c'était un endroit qui était apprécié à la fois par les Anglais, par les Allemands, et par, disons que ce n'était pas un lieu qui était neutre, si vous voulez. Mais mon installation à Saint-Denis-le-Gard, elle a un côté très aléatoire. C'est parce que j'ai eu ma première petite fille. Tout d'un coup, je me suis dit, il faudrait que j'aie une maison pour que les enfants puissent venir, que ce que je n'ai pas pu faire pour mes enfants, eh bien que mes enfants puissent le faire pour leurs petits-enfants. L'installation, finalement, dans une maison à la Rairie, Saint-Denis-le-Gard, après avoir vu plusieurs maisons, elle vient aussi peut-être d'une question très personnelle, c'est-à-dire le besoin, tout d'un coup, de trouver un endroit, un lieu, si vous voulez, qui puisse être celui, au fond, des enfants et des petits-enfants. Et donc, je me suis installée là, pas du tout pour une question finalement qui était une question stratégique, mais beaucoup plus pour une question personnelle. J'ai acheté la maison, c'est vraiment devenu la maison, si vous voulez. J'ai eu partout des maisons, parisiennes bien entendu, tous mes lieux étaient des maisons. Mais celle-ci, elle est encore plus, si vous voulez, parce que elle a un jardin potager, elle a, si vous voulez, de l'espace autour. J'aime habiter cette maison très fortement. Alors, et bien entendu, les enfants, les petits-enfants et les amis, les gens qui viennent nous voir. Alors maintenant, je vais essayer de dire justement ce rapport que j'ai à Coutances. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit parce que c'est vrai que Coutances, y compris d'ailleurs pour nos voisins, pour les gens qui sont autour de nous, puisque moi je vis dans une commune de 500 habitants, dont le bourg a à peine 70 habitants. Tout le reste, ce sont des gens dispersés autour, en petits villages, si vous voulez. Et donc, le bourg, il a un petit côté ville, si vous voulez, très petit, très ville, très petit, mais il est aussi touché par le pavillonnaire. C'est-à-dire qu'autour du bourg de 60 habitants, il y a déjà un périurbain autour de ces 60 habitants. Mais l'ensemble des habitants de Saint-Denis-le-Gard sont, disons, dispersés en petits villages, si vous voulez, donc dans la structure qui est celle du bocage. Alors, qu'est-ce que je voudrais parler de Coutances, parce que finalement, ce qui est... Alors ça, c'est aussi en géographe que je parle, dans ce pays, il reste encore quelque chose, si vous voulez, qui ressemble à, au fond, cette organisation qui est de l'époque révolutionnaire, qui est la petite ville et son environnement. Et en fait, c'est un véritable privilège. C'est-à-dire que le fait que, justement, Coutances, comme on pourrait dire, c'est peut-être la plus, comme Avranches, comme Granville, comme Saint-Lô est un peu plus grand, ce tissu de petites villes, de villes moyennes, c'est quand même une forme d'urbanisation qui est très agréable, si vous voulez, quand on est aussi à l'extérieur de la petite ville. Hein. Parce qu'en fait, eh bien, Coutances est quand même un lieu que l'on fréquente. Mes voisins, une de mes voisines, qui est peut-être à 3 km ou peut-être même plus de moi, elle vient ici parce que... Elle considère que la vie culturelle à Coutances est quand même nettement supérieure à notre vie culturelle, nous, dans Saint-Denis-le-Gard et dans nos petits coins. Et il est vrai que chaque fois que nous avons un désir de quelque chose d'un peu différent, on vient toujours à Coutances. J'ai ma banque à Coutances, etc. Si vous voulez, c'est quand même, ça reste quand même comme autrefois, c'est cette petite ville. Vous avez parlé de la prison et de c'est-à-dire la petite ville, c'était quand même la ville pour les gens d'autour, c'est-à-dire par rapport auxquels on pouvait effectivement venir. Et évidemment, la librairie, c'est très important pour nous. On est des intellectuels quand même, malgré tout. On peut pas faire autrement. Ben, mon mari est artiste peintre. Bon, on peut trouver aussi des produits pour les arts. L'importance du lycée agricole et de la maison familiale et de la formation au paysagisme. Il y a quand même, disons, il y a quand même des choses, si vous voulez. J'en reviens à ma vie, à moi, hein, la question du Orsin. Effectivement, c'est une question qui, à mon avis, est très pertinente. En un sens, vous voyez, je vais rentrer par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je me suis présenté, j'ai même été tête de... Je présentais une liste en 2008 qui a obtenu 20% quand même. Donc, on était moins que vous. Mais du coup, quand on était 20%, on a été éliminés tous. Ben, bon. Et cette liste était la première fois qu'il y avait une liste, une deuxième liste. C'était la première fois. Hein. Et bon, malgré tout, je suis assez connue dans la commune. Pourquoi ? Parce que quand j'étais encore enseignante, si vous voulez, j'avais emmené mes étudiants, on a vu le maire, on a vu les conseils municipaux, on a fait une recherche sur à la fois les questions de pauvreté en milieu rural, on a fait aussi des questions sur l'avenir des exploitations agricoles, sur les femmes. Enfin, on avait, en plusieurs années, on avait fait tout un dossier, si vous voulez, on peut dire, toute une enquête, une recherche sur à la fois Gavray et Saint-Denis-le-Gard. Saint-Denis-le-Gard étant un peu plus, parce que c'était là qu'on habitait, si vous voulez, tous, y compris mes étudiants. Mais voilà. Et mon mari, comme moi, nous sommes comme vous. C'est-à-dire, nous ne savons pas vivre dans un endroit sans nous y impliquer, sans nous y engager. C'est-à-dire sans, en même temps, y voir les atouts, les choses qui pourraient être améliorées, si vous voulez. Et en fait, il faut reconnaître qu'il faut peut-être mieux habiter à Coutances qu'habiter à Saint-Denis-le-Gard. Parce que habiter à Saint-Denis-le-Gard, on se heurte au fait qu'on n'a pas eu toute sa famille là. Moi, personnellement, je suis propriétaire, donc ça fait déjà un petit plus. Ça fait un petit plus, on est un petit peu moins orsin parce qu'on est propriétaire. Mais disons, il ne faut pas quand même aller trop loin. Et surtout pas s'imaginer qu'on pourra faire la politique autrement. Se dire qu'on essaye finalement de valoriser, d'avoir un contact un peu élargi, y compris avec les étrangers, alors les vrais étrangers, c'est-à-dire les Anglais, les Allemands, qui sont là en résidence principale. Ils ne sont pas seulement qu'en résidence secondaire. Et même s'ils n'étaient qu'en résidence secondaire, pourquoi pas, si vous voulez. C'est-à-dire arriver à faire en sorte que, effectivement, il y ait une mise en valeur beaucoup plus importante, à la fois, alors pour nous, à la fois du bourg, la place qui pourrait être beaucoup plus belle, le fait qu'il y a une très jolie allée de maison qui pourrait être mise en valeur parce qu'elle a un côté, elle est classée. Hein. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de petits chemins. Il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qui pourraient être finalement innovantes, y compris sur la question des énergies renouvelables, sur la question de la circulation, sur la question de la façon d'habiller. Bon, oui, je suis insérée, mais c'est une insertion qui est très éclectique, si vous voulez. C'est-à-dire il y a des personnes que nous rencontrons, etc. C'est une sorte de un réseau un peu qui n'arrive pas, si vous voulez, à celui auquel finalement j'aspire, c'est-à-dire alors dans la liste, par exemple, il y avait un jeune professeur de géographie. Hein, la question des jeunes dans ce milieu rural, eh bien, c'est une question très importante. Est-ce qu'on peut trouver un emploi? C'est comme ça que je me serais sentie insérée. Je me serais sentie insérée si, effectivement, mon métier de chercheur, mes capacités avaient été acceptées, disons, pour faire un meilleur vivre ensemble. Voilà.
Donc ça va être au tour de Lionel. Lui, il n'a pas un point de vue local, il a un point de vue plus universitaire, on va dire, et plus global. Comment mettre en perspective le système urbain coutançais par rapport au phénomène de métropolisation? Alors le terme de métropolisation est à définir. Quelles sont les implications en termes d'économie, bassin d'emploi, social, intimité, sociabilité, urbanité, et d'aménagement du territoire, développement du périurbain, relations centre-périphérie? Et enfin, quels sont les ressorts des phénomènes observés?
Bonsoir. Je vais essayer donc de vous tenir un propos sur ces questions-là avec des termes barbares qui ont été employés. La question de la métropolisation, à mes yeux, en fait, c'est une question importante. On a tendance à considérer que ça concerne que les grandes villes. Pas pour moi, en tout cas, je vais vous dire un petit pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la métropolisation? Pour faire vite, on pourrait dire que c'est une transcription un peu spatiale d'une nouvelle division internationale du travail. Voilà, pour faire vite, c'est-à-dire, en gros, c'est le marqueur socio-spatial des transformations de l'économie nationale, une économie nationale qui s'est de plus en plus mondialisée et qui, quelque part, recompose, reconfigure le lien entre le local et le global, entre ce qu'on vit dans notre quotidien et ce qui se passe dans le monde entier. Ces choses-là qui étaient très éloignées pendant des décennies, aujourd'hui, elles nous concernent au quotidien également. Et quelque part, elles interfèrent fortement sur la manière dont les villes se structurent avec des écarts de plus en plus importants, des quartiers très riches et juste à côté des quartiers très pauvres, sur également les territoires ruraux qui ressemblent de moins en moins à du rural, où on est effectivement sur quelque chose de beaucoup plus hybride au fur et à mesure qu'on s'éloigne des villes, et pas forcément que sur quelque chose de très radioconcentrique, mais bien parfois sur des dynamiques d'axes, de liaisons. On est plutôt sur une espèce de grande toile d'araignée avec parfois d'un seul coup à nouveau une grande ville comme ça qui apparaît, mais parfois des choses qui continuent, et on voit se succéder des lotissements, des petites villes qui se connectent les unes aux autres, parce que qu'est-ce qui crée le lien, en tout cas, dans tous ces espaces-là? C'est la mobilité. C'est la capacité à se déplacer aujourd'hui facilement pour, si ce n'est tout le monde, la grande majorité d'entre nous. On se pense aujourd'hui sur quatre roues plus qu'on ne se pense sur deux jambes. Et ça vaut pour tout le monde. Un habitant du centre-ville, à part peut-être quelques Parisiens, jusqu'à un habitant des campagnes, quoi. Donc, voilà. Et ça participe fondamentalement à transformer notre rapport à l'espace, notre rapport à l'autre, et probablement aussi notre rapport aux politiques. Voilà pour cette introduction, en tout cas, de base. Alors, cette métropolisation, elle impacte fortement, à mes yeux, la Basse-Normandie aujourd'hui. Pourtant, il n'y a pas de grande ville en Basse-Normandie. Quand, à l'échelle européenne, n'est pas une grande ville, et à l'échelle française, n'est pas une grande ville. Toutefois, la métropolisation, elle impacte la Basse-Normandie. Je ne rentrerai pas dans les figures de cette métropolisation en Basse-Normandie. Elle impacte également la Manche. Par contre, là, je vais essayer de faire un petit peu un dessin. C'est vraiment un dessin, et c'est de l'intuition. On est sur de l'ordre, effectivement, d'un regard d'un géographe et d'un aménagiste, avec effectivement quelques chiffres, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Il me semble qu'on peut repérer quatre grands impacts de cette métropolisation, de cette transformation de l'espace et des sociétés dans le département de la Manche. Alors, je vais poser ça en question. Et si la situation du Nord-Cotentin n'était pas une forme très localisée de la dévitalisation urbaine, en l'occurrence là, Cherbourg, ce que les anglo-saxons appellent la shrinking cities, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une shrinking cities, qu'est-ce que c'est qu'une dévitalisation urbaine? C'est l'incapacité d'une ville dans la transformation de l'économie mondialisée, à se reconnecter à cette économie-là. C'est-à-dire, quelque part, on est sur une ville qui n'arrive plus à capter de l'emploi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se périurbanise. Ça se dilue, effectivement, dans le rural, pas simplement les résidences, mais également les emplois. Et le Nord-Cotentin, aujourd'hui, c'est ça. Ce qui est en train de se passer à Nord-Cotentin, hein, c'est que Cherbourg perd des habitants, mais perd également des emplois. Ce qui n'est pas le cas en moyenne du Nord-Cotentin. Les choses sont relativement stables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout se dissémine, hein, tout part en puzzle un peu, dans un Nord-Cotentin, avec des petites villes, des petits pôles comme ça, et aux dépens de la ville de Cherbourg. Sauf que le jour où Cherbourg se casse la gueule, réellement, c'est tout le Nord-Cotentin aussi qui se casse la gueule. C'est-à-dire que il y a une opposition entre ce périurbain du Cotentin et la ville de Cherbourg, alors qu'il devrait y avoir là, à mon avis, une complémentarité pour essayer de s'en sortir. Hein ? Il y a une solidarité à trouver, et pas simplement que sur des questions de services, probablement aussi sur des questions financières. Mais ça, c'est un autre enjeu. Autre questionnement, et si le long de l'autoroute qui traverse le département de la Manche, le processus de rurbanisation, alors on est sur autre chose que de la périurbanisation, bien évidemment, hein, c'est cette espèce d'urbanisation beaucoup plus émiettée, pas autour forcément d'une ville, mais un petit peu le long de l'axe autoroutier, où on voit là une augmentation de la population de toutes ces communes qui sont sur cet axe. Est-ce que cet éparpillement de l'urbanisation le long de cet axe-là n'était pas le signe de l'arrivée d'une métropolisation à Rennes et à Nantes qui se connecterait? Et quelque part, le long de cette autoroute, petit à petit, une installation de gens qui travaillent à Caen, à Rennes, ou à Caen ou à Rennes, ou à Caen ou à Rennes, et puis dans les autres petites villes qui sont là, à Saint-Lô, à Vire. Hein, quelque chose, effectivement, de beaucoup plus labile, de beaucoup plus difficile à appréhender, et donc de beaucoup plus difficile à gouverner, à penser, à contrôler, à orienter. Et si le processus de littoralisation, un autre terme barbare, pour ne pas parler de périurbanisation ou d'urbanisation, mais c'est de littoralisation, qui est assez puissant quand même, dans le centre Manche en particulier, et si ce processus de littoralisation, dont le cœur majeur est Grandville, pourquoi Grandville? Ben, parce que c'est la bonne connexion à Paris, c'est le lieu premier de la villégiature parisienne, et que quelque part c'est le lieu qui fait modèle. Comme tout le monde ne peut pas accéder financièrement à Grandville, eh ben ça commence à se diffuser le long du littoral. Sauf que quel est le risque là? C'est que ça recompose les ségrégations socio-spatiales locales. C'est que ce bord de mer, de plus en plus pour des Parisiens en manque d'authenticité, en manque d'hédonisme et en manque d'aménité paysagère, le rend inaccessible aux actifs de la Manche. Et quelque part, on a un report de cette urbanisation-là, des actifs locaux, vers l'intérieur du département. On n'est pas là sur un rapport centre-périphérie, mais bien bande littorale, rétro-littorale, et ainsi de suite. Bon, c'est des hypothèses de travail. Enfin, pour finir de cette esquisse, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un espace, par exemple, comme celui du Mortainais, n'est ni proche d'un littoral valorisé, ni proche d'une infrastructure valorisée, ni proche d'une ville qui serait en proie à la désindustrialisation pour pouvoir récupérer quelques services et quelques habitants et donc faire croire qu'il y a du développement? Est-ce qu'il ne peut survivre que par les subsides de l'État? Ou est-ce qu'il doit sombrer dans la pauvreté, dans le dépeuplement, voire dans le décrochage, ou bien alors devenir une réserve naturelle? La question se pose, mais les enjeux politiques aujourd'hui, à mon avis, ils sont là. Et ils ne sont pas à l'échelle simplement d'une petite ville de Coutances, aussi belle et aussi jolie soit-elle. La question de l'habiter, il se pose dans ces dimensions-là. C'est-à-dire, il ne se pose bien pas dans les dimensions liées à un lieu seul, mais bien à des lieux, à la manière dont ces lieux-là font réseau, font effectivement territoire. Pour passer de l'espace au territoire, c'est ça. Pas le territoire qui est gouverné, celui qu'il faudrait peut-être arriver à gouverner à une autre échelle. Voilà. Ou tout au moins dans de l'inter-territorial, dans une capacité de dialogue, de coopération entre les différents morceaux de ces territoires-là et de ce département-là, et pas dans une concurrence mutuelle. Parce qu'à l'échelle de la métropolisation, la Manche, c'est un petit morceau. C'est un petit morceau qui est en train d'être gouverné par qui ? Par Paris, quelque part. Parce que c'est Paris qui dicte ce qui se passe. Ou Rennes, un tout petit peu de plus en plus, dans le sud-Manche. Voilà Voilà un petit peu, hein. Je m'arrête là, je pense que ça suscitera peut-être des questions, mais voilà, c'était pour essayer d'ouvrir en fait et de faire prendre un petit peu de la distance à cette question du habiter-Coutances, parce que derrière habiter-Coutances, c'est aussi peut-être habiter la Manche, et que la question du renouveau de Coutances, c'est comment on renouvelle une réflexion à l'échelle de la Manche qui, à mon avis, a un réel potentiel si on est capable de faire fonctionner toutes ces petites villes entre elles et de rendre ces petites villes attractives en termes d'emploi, de recherche, de formation, de mobilité, de capacité à permettre aux gens de se déplacer d'une ville à l'autre, parce que chacune en elle-même a un potentiel et a une valeur qu'il faut mettre en réseau.
Merci. Donc là, je vous invite à discuter un peu de tout ce que vous avez entendu, à peu près 5-10 minutes, pour ensuite se passer le micro et vraiment poser des questions, alimenter le débat.
Il faut tout reprendre à zéro. À partir de ce que les gens ont besoin. Les gens dont ont besoin. Bon, excusez-moi. Alors, vous êtes là.
Moi, il y en a.
Nous allons reprendre le débat si c'est possible.
Lynn Lenné, je suis à Coutances depuis 12 ans. Je suis revenue à Coutances il y a 12 ans parce que j'ai passé le bac, moi, à Coutances. Quand j'ai quitté Coutances, j'avais donc 18 ans, quand j'ai passé le bac, je ne me suis pas retournée. Et on m'aurait dit que j'allais revenir vivre et travailler à Coutances. J'aurais dit, mais il est complètement fou celui-ci. Je ne me suis pas retournée. Il était absolument hors de question. Coutances était rayé. Et là, j'ai une fille qui a 19 ans. Je lui ai dit, viens ce soir, on parle de Coutances. Du coup, au moment où je me dis aux Coutances, mais alors elle, en tant que jeune, Coutances, c'est hors de sa perspective. J'ai aussi acheté une maison qu'elle aime beaucoup, que nous aimons beaucoup, dans laquelle elle est là depuis l'âge de 6 ans. Dans son imaginaire, dans sa formation, est très très importante. Il n'y a pas de perspective pour elle. Elle ne voit pas d'avenir à Coutances. Moi, pourquoi je suis revenue à Coutances? Parce qu'il y avait le train pour bouger. Il y avait un hôpital public qui était complet. Il y avait, des écoles. Il y avait beaucoup de formations. Il y avait une librairie. Oh là là, il y avait une librairie. Il y avait un théâtre que j'avais connu quand j'avais été lycéenne, hein, parce que il y avait la troupe de Rennes qui s'appelait la Comédie d'Ouest, qui est maintenant une troupe nationale, hein, mais qui venait à Coutances régulièrement sur une programmation annuelle. Donc je savais qu'il y avait une vie, que depuis le festival de jazz, moi je le connaissais depuis le début, parce que j'avais toujours des attaches familiales dans le coin. Dans toutes vos interventions, dans les interventions des trois, je me suis reconnue sur des petits bouts, des petits éléments. Je suis venue aussi parce que je pouvais tout faire à pied. Mais malgré tout, on ne peut pas se passer d'une voiture. Pourquoi? Parce que dès qu'on a quelque chose à faire... un tout petit peu à la périphérie ou alors surtout aller à la mer, on peut pas y aller autrement que sans voiture. Ça c'est vraiment c'est désolant, quoi. Moi je vis une ville maintenant qui est complètement bouffée, envahie par la bagnole. Il y a que ça partout. Il y a de moins en moins de trains quand même pour circuler. Alors avec un système, je passe là-dessus. C'est conjoncturel, mais enfin, je veux bien. Je suis allée à la poste ce matin pour une ville de presque 10 000 habitants. C'est un désastre. Elle est en travaux, c'est n'importe quoi. On nous envoie pour retirer du fric à la poste à Montmartin ou à Agon. Enfin, c'est bon. Ok, c'est conjoncturel, c'est 15 jours, mais pour faire quoi de la poste maintenant, tout en machine? Je veux dire que l'intervention de vous parliez de la cosmopolitisation. Moi, j'appelle ça la mondialisation. La mondialisation, elle arrive dans le pire des choses à Coutances. Je le dis parce que tout le monde connaît mes idées. Par exemple, on a un patrimoine architectural et un patrimoine, paysager exceptionnel. exceptionnel, de même qu'on a un patrimoine culturel. Par exemple, il y a une harmonie qui n'a jamais cessé depuis la création des harmonies pendant la Révolution française. Dans ma rue, je montre à des gens qui ont habité là tout le temps deux petites sculptures du Moyen-Âge, en leur montrant la structure de l'échoppe et puis le couple qui était propriétaire de cette échoppe. Personne ne connaît ça. Il y a des passages, il y a une architecture du Moyen-Âge qui est fragile, qui n'est absolument pas mise en valeur, mais du tout. Non seulement ça, mais on nous colle. Là, on nous met des cars en plein dans un quartier du Moyen-Âge. Bon, au mépris de tout. En plus, il y a un déficit absolument total de démocratie, d'expression de la population de Coutances. Il y a un immobilisme, c'est bloqué. C'est le cinéma, la culture, le cinéma. Il y a un cinéma et il y en a un à 15 kilomètres qui sont en concurrence au lieu d'être en synergie. Tout est comme ça. Donc, il y a un gâchis absolument quotidien, quoi. La mer. Moi, je voudrais qu'il y ait des navettes toutes les demi-heures pour qu'on puisse aller à la mer, qu'on soit pas obligé. Moi, je voudrais vivre sans voiture. Donc, j'encombrerai pas. Je demanderai pas de place de parking, mais il faut pouvoir bouger quand même. C'est vrai.
Bon, moi, je voulais vous parler. Vous avez parlé d'immobilisme. C'est très important. Vous avez parlé de gâchis. C'est très important. C'est-à-dire que, finalement, c'est là où est le problème. Le problème, il est dans les gens, chez les gens. C'est ce que je disais. Il n'est pas... Alors, on dit la mondialisation, la métropolisation, l'urbanisation, etc. Oui, mais ça, c'est normal, si vous voulez, que si l'on construit une autoroute, c'est normal que, effectivement, les gens mettent leur maison pas très loin pour ce, etc. Donc, on n'est pas du tout étonné, finalement, par le fait qu'il y ait plus de lotissements, qu'il y ait effectivement une dévitalisation de l'emploi. De toute façon, il y a... ce que l'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, il y a des atouts, comme vous l'avez dit. La Manche a toujours, depuis le XVIIIe siècle, c'était un des départements où il y avait le plus de petites industries, de petits artisanats, un réseau très dense. Et il y a toujours des petites industries, des artisans, etc. Donc, le problème est finalement d'une sorte de sursaut qui viendrait des gens eux-mêmes, qui, comme vous, diraient, eh bien, finalement, on a envie d'aller en navette à la mer. On a envie de continuer à marcher à pied. Et c'est ça dont on a envie. Et les architectes et tous les gens qui veulent nous interpréter la façon dont on doit vivre et dont on veut vivre, eh bien, en fait, tous ces gens-là, il ne faut pas les écouter parce qu'il faut partir de ce qui doit être, disons, une satisfaction. Voilà. Moi, je dis toujours, une façon d'habiter. On habite tous les lieux. Il faut que les habitants expriment de façon forte.
Il faut qu'ils soient écoutés.
Mais oui. Mais attendez, avant, avec les jeunes, avec les gens, avant d'être écoutés, il faut déjà se rassembler. Si chacun d'entre nous reste heureux dans sa maison, sans m'occuper de quiconque, si c'est ça qui se passe, eh bien évidemment, tout le monde est heureux chez soi, sauf ceux qui sont très malheureux. Bon, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à se débrouiller. L'idée d'habiter Coutances, c'est une très belle idée. C'est-à-dire, c'est habiter tous nos lieux. Essayons d'habiter tous nos lieux. Essayons de le faire avec, justement, par des rencontres, par des réunions, avec, etc. Essayons de le faire. Bon.
Oui, Nicole, oui, la question, c'est bien d'essayer d'habiter. Sauf que ces processus d'urbanisation, la manière dont ils se sont construits, dont ils se sont mis en œuvre sur l'ensemble des espaces, n'ont pas été propices à cette mise en habité des lieux. Je trouve que ils ont participé à une déconnexion entre le lieu du logement et le lieu de l'habité. Et je pense qu'il faut aujourd'hui arriver à retrouver la connexion entre se loger et habiter. Et là, ça devient difficile, en fait. Voilà, ça devient difficile. Pourquoi ? Parce que l'emploi a explosé dans ces localisations, parce que effectivement, on est sur des attentes et des besoins qui sont de plus en plus diversifiés dans des tout petits villages parfois. Je veux dire, on a des villages, comme tu dis, de 500 habitants, où on a 6 mois par an des riches londoniens, une semaine sur deux des riches parisiens, des habitants locaux, des périurbains de Saint-Lô. Comment on fait, comment on construit de la cohabitation?
On l'a construit en tout cas en disant, en essayant de rejeter l'idée, cette idée de déterminisme, l'idée d'irréversibilité.
Tout à fait d'accord, j'entends tout à fait le discours universitaire. Mais la vraie question dans cette affaire, pour moi, c'est une question politique. Mais politique en sortant complètement du carcan droite-gauche qui est insupportable à mon sens. Et c'est la question, c'est quand Lynn dit on rêve tous d'une navette ou d'un transport en commun qui rejoindrait Coutances à la mer, Coutances aurait gagné. Je suis certaine que si vous demandez dans l'intimité de l'esprit des 9600 Coutançais ce qu'ils en pensent, les gens sont tout à fait d'accord. Mais il y a un défaut de prise en main. La parole n'est pas libre, on ne peut pas s'exprimer politiquement si on n'est pas dans un sérail, si on n'est pas adoubé par un sérail. Ici, on est totalement dans un système cloisonné, on ne peut pas rentrer dans ce système. Seuls les notables, seuls les reconnus, seuls les élus, mais ça me fait presque rire parce que c'est au sens de la dialectique chrétienne, quoi. Qu'est-ce qu'il y en a de plus pour être élu qu'est-ce qu'on a de particulier? Rien, absolument rien. Finalement, tout citoyen est concerné. On s'est détaché, les institutions ne nous représentent plus. Et c'est vrai dans une petite ville comme Coutances. Les institutions ne représentent... Moi, le conseil municipal me paraît totalement décalé de ma réalité d'habitante. Je me dis, mais qui sont ces gens qui parlent de choses qui sont souvent superficielles, qui sont des affaires, presque des affaires courantes? Où est la vraie vie? Où est la réalité de la vie des habitants? Elle est partout sauf dans l'institution. Quand je parlais de la représentation au conseil municipal en fonction du pourcentage, je le disais pas pour... je dis, c'est quelque chose qui coupe les gens, parce que de toute façon, si vous faites 50,5, c'est bon, vous avez tous les sièges, vous avez toutes les manettes, c'est fini. Donc les gens disent, on s'en fiche, on se détache de ça.
C'était quand même pire avant cette loi électorale.
Attendez. Richard-Marie, je suis le DG de la ville et de la communauté, et je voulais juste rappeler à Madame Fournier que la loi électorale, elle a des défauts, en donnant effectivement la moitié des mandats de conseillers municipaux à la liste qui arrive en tête, qu'elle est 35 ou 51%, et qu'après la proportionnelle ne joue que sur la deuxième moitié, mais avant c'était encore pire quand même.
Oui, je me présente, et donc Pierre Bergel, encore un géographe de Caen. Moi je réagirais sur deux points. Premier point, la lecture de Lionel, enfin la lecture de la réalité, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec lui. D'accord avec lui sur ces questions de les espaces métropolisés sont les espaces de la mondialisation, ça je crois que c'est une idée assez forte qui s'est généralisée dans les sciences humaines et sociales, et je crois que c'est une bonne façon de voir les choses comme ça. Néanmoins, dans une région comme celle-ci, et c'est vrai en fait dans tout l'ouest de la France me semble-t-il, il faut pas oublier les couches antérieures, et notamment la couche de la société rurale qui, à mon avis, est beaucoup plus solide que ce que l'exposé de Lionel laissait supposer. Je crois qu'il y a une solidité sociale, économique, aussi politique d'ailleurs, avec y compris ses défauts, le système de la notabilité. Donc il y a une solidité qui fait que ces espaces et ces sociétés ne reçoivent pas la mondialisation comme un fait brut, qui va complètement se surimposer au reste. Il y a des héritages, il y a des temps anciens qui demeurent. Et ça, je crois que c'est peut-être là-dedans qu'il faudrait aller chercher des pistes pour l'avenir. J'ai par exemple été frappé, mais c'est pas la première fois que je le vois quand on parle de patrimoine dans l'ouest de la France, qu'on ne parle jamais, mais alors jamais, du fait que toutes ces villes ont été détruites puis reconstruites, et en fait on a l'histoire glorieuse de la Normandie, c'est donc ce qu'on fête en ce moment, c'est-à-dire Guillaume le Conquérant, etc. Le 11e siècle, il y a un peu effectivement le 18e siècle, etc. Et puis après il y a un grand trou noir jusqu'à aujourd'hui, et on ne sait pas bien ce qui s'est passé entre les deux. Il s'est passé plein de choses, et effectivement il y a je crois une solidité de ces sociétés et de ces espaces qu'il ne faut pas négliger. Alors du coup j'en viens à mon deuxième point, je vais essayer d'être très 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 bref. La question politique, je crois qu'en fait elle dépasse largement une ville comme Coutances. J'ai l'impression en France, pour travailler de plus en plus à l'étranger, qu'il y a une défiance de plus en plus grande vis-à-vis des mécanismes de la démocratie et à toutes les échelles. On est bien placé pour le savoir ces derniers temps, d'ailleurs à une échelle supra, et que ça dépasse largement la question de la petite ville, du patrimoine, de la Basse-Normandie, etc. Et je crois que c'est peut-être là, et donc c'est pas un problème géographique du tout, c'est franchement un problème politique, et là je vous rejoins totalement. Je crois qu'il y a une question politique qui devrait commencer à se poser en France sur la question de la défiance. Et là, en revanche, je suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites, quand on a 50,5% des voix, les autres ne peuvent pas plus rien faire. La règle de la majorité, c'est quand même une règle cardinale de la démocratie, donc ça pose quand même un problème, cette phrase-là. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une défiance généralisée, y compris dans certains principes qui ont fondé la démocratie en France au moment de la Révolution française, globalement. Et moi, c'est vrai que ça me questionne, et là, pas en tant que géographe, parce que je serais tenté de dire que ce n'est pas des mécanismes spatiaux, ils sont largement sociaux et politiques, et ils sont un peu valables à toutes les échelles et dans toutes les régions.
Cette question que tu soulèves en fait des héritages en fait et de la survivance en fait de la société rurale, oui. C'est pas une survivance. Non, mais tout au moins pour moi c'est une survivance parce que au bout d'un moment il y a bien pourquoi il y a une survivance parce que on les oppose cette société urbaine qui s'installe et cette société rurale qui serait là. En quoi cette société rurale qui serait là serait plus légitime qu'une société rurale, qu'une société urbaine qui s'installe. Je pense que la question, elle est dans l'hybridation, dans la capacité au bout d'un moment à construire un projet commun, un imaginaire commun, qui serait pas la reproduction, effectivement, d'un passé, qui serait pas peut-être non plus l'acceptation totale d'un processus actuel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ? Quel imaginaire on reconstruit ? Et un imaginaire qui, probablement aujourd'hui, pour permettre un bus qui irait à la mer, doit sortir d'un rapport à la municipalité qui passe quand même parfois par de la féodalité. Parfois. En particulier, je trouve, en Basse-Normandie, dans un contexte en plus où il y a un émiettement communal. Enfin, simple détail, il y a autant de communes en Basse-Normandie que dans l'ensemble des départements de PACA, plus la moitié des départements de Rhône-Alpes. Il y a quand même là... Non mais je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal. Je dis juste qu'au bout d'un moment que ça construit un rapport au politique, ça construit un rapport à l'action politique qui est difficile. Je dis juste que c'est difficile. Comment on met en place un bus pour des Coutançais si à la limite la commune qui va l'accueillir, ce bus n'a pas envie que le bus y vienne. La réflexion elle doit se faire à une échelle plus large probablement. Bon. Pas simplement pour des questions de mobilité, probablement aussi pour des questions d'urbanisation, pour des questions de réorganisation de services. Enfin, c'est la question, au bout d'un moment, de l'accueil. À quelle échelle on le pense, l'accueil ? Probablement plus à une simple échelle municipale. À mon avis, en tout cas, là-dessus, on est peut-être effectivement sur aujourd'hui un blocage qui, au-delà, bloque aussi peut-être l'exercice d'une démocratie.
Je m'inscris complètement en faux entre ce que tu dis. Parce que c'est la même question qui se pose à l'échelle de l'agglomération parisienne, à l'échelle de... Oui. C'est pas une question de taille. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce que vous avez dit. C'est une question de conception de la démocratie. On peut faire de la démocratie à n'importe quelle taille de population. On peut être... et d'ailleurs, est-ce qu'on est urbain ? Est-ce qu'on est rural ? Est-ce que moi je suis urbaine ou est-ce que je suis rurale ? Je suis, en tout cas, j'habite à Saint-Denis-le-Gard, à la Rairie, et je me sens très proche des personnes qui ont parlé ce soir. La société, il n'y a plus de société, ni de société rurale, ni de société urbaine. Il y a des gens qui essayent d'habiter dans les lieux où ils ont trouvé une petite place, et ces gens-là, ils aspirent à une démocratie locale qui ne soit pas imposée par les institutions, comme on l'a dit, par une conception de l'institution qui refuse finalement la démocratie, c'est-à-dire l'expression des besoins. L'expression des besoins et la prise en compte des besoins des gens. Peut-être que ça vient de la mondialisation, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que ça vient aussi des gens eux-mêmes. D'ailleurs, l'intercommunalité. Non, mais qu'est-ce que ça fait ? Mais oui, ben justement, ça ne fait que la...
À part gérer des poubelles et gérer des transports.
Voilà, exactement.
Justement, j'aurais souhaité que vous réagissiez en tant que DGS. J'ai pas oui. Votre nom, mais...
Il s'est dit tellement de choses que c'est difficile de réagir à tout, c'est difficile. On saute du coq à l'âne, beaucoup. Sur l'intercommunalité, vous ne pouvez pas dire qu'on s'est seulement occupé de gérer les déchets. De gérer les déchets et les transports scolaires, vous ne pouvez pas dire ça. Sur le problème de la... Il y a un refus de l'expression des besoins. On peut toujours exprimer les besoins. Après, sur le politique à satisfaire les besoins, je crois que le politique entend toujours les besoins. Après, est-ce qu'il y a une faisabilité économique? On n'a pas du tout parlé d'économie, on n'a pas du tout parlé de ressources. Les collectivités territoriales, aujourd'hui, sont confrontées à un problème de ressources et d'utilisation de ces ressources. Vos envies et l'expression des besoins, elle est tellement diverse qu'on ne peut pas tout satisfaire. Et encore en plus, je peux vous dire qu'à mon avis, dans les années à venir, il va falloir encore plus se serrer les ceintures. Va arriver le problème de la dépendance, qui est un gros problème pour les départements. Sur les régions essayent d'être partout présentes au niveau de l'université, au niveau de la formation professionnelle. Si on prend l'exemple de la Basse-Normandie, je ne crois pas qu'elle démérite à ce point-là, à ce point de vue-là. Comment ?
La dernière information supérieure et recherche et développement en France.
Oui. Sur le problème des transports aussi, il y a eu des tentatives de fait. Je pense qu'au niveau du département, il y a des efforts de fait également au niveau du schéma départemental. Que Mme Lenné veuille une navette entre Coutainville et Coutances toutes les demi-heures, peut-être, mais c'est économiquement pas réaliste. Il existe une navette pendant l'été, mais il existe une navette pendant l'été, mais de la cadencer toutes les demi-heures, on se trouve toujours un problème d'un cadençage. Mais on voit quand même que quand il y a une expression et quand les gens se réunissent, comme le travail qui a été fait par un certain nombre de particuliers au niveau sein de la DPCR, il y a eu pression sur la région. Il ne faut quand même pas oublier que la ligne Caen-Rennes aurait très probablement été supprimée si, à un moment donné, il n'y avait pas eu un gros lobbying de milliers de gens qui ont eu l'écoute et il y a eu des efforts de modernisation de la ligne et il y en a encore. J'ai envie de rebondir aussi tout à l'heure sur ce que vous avez dit sur la littoralisation. Vous avez fait un constat. Ce constat, on peut le partager. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle réaction on peut avoir à ça. Quand on voit ce qui s'est passé sur le Morbihan, sur la presqu'île de Crozon, Port-Navalo, etc. Ici, on aurait pu se faire bouffer. Alors ça s'est fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ici, on aurait pu se faire bouffer la pointe d'Agon. Le littoral a été un peu sauvé. Coutainville, Gouville, Pirou, Carteret, ça n'est quand même pas Coursol, Luxure-Mer, où on a des paysages qui sont incroyablement abîmés. Incroyablement abîmés. Quand vous parlez de la région cherbourgeoise, de la perte, de cette dissémination de l'emploi, je suppose que les élus de Cherbourg essayent de tout faire. Mais quand on perd Toyota, quand on perd le terminal, quand il y a des transferts de flux des ferries vers, en particulier, l'ouverture de Ouistreham n'a pas fait du bien à ma connaissance à Cherbourg. Il y a eu un transfert vers Ouistreham. Les élus, je pense qu'il y a eu les tentatives, je pense, au fast chip qui était un grand projet, qui était cher à Legrand, sur lequel le département a pas mal investi pour faire ce contournement de Cherbourg et qui s'est avéré un mythe ou une non-réalité économique. Ça s'est pas réalisé. Là, on se réjouit, je crois, qu'il arrive à nouveau du charbon à Cherbourg. C'est quand même extrêmement difficile. Je pense qu'il y a des ratages et je pense qu'il y a un schéma organisationnel du territoire. Je pense à cette loi de 92 qui était la loi ATR, Administration Territoriale de la République, où il y a eu un peu des ratés. Je crois que la réforme territoriale qui est en cours sera peut-être un raté. Je pense que quand vous vous réjouissez qu'il y ait centaines de communes dans le département, je pense qu'on pourrait aujourd'hui gérer différemment le territoire et que l'échelon cantonal, c'est-à-dire l'échelon de la communauté, est un bon échelon, est un très très bon échelon. Et qu'on aurait pu avoir une autre vision. Il y a eu les rapports Mauroy-Juppé où on faisait remonter les présidents de communauté pour constituer l'Assemblée départementale, ce qui permettait d'avoir une vision de terrain et une vision un peu plus au-dessus. Ça aurait été plus intéressant que ce qui se prépare là tout de suite.
Je m'appelle Antoine Fournier et j'habite Coutances depuis 2003. Et mon père est né à Coutances, donc j'ai le droit de parler, de donner mon avis. Et mon grand-père a exercé le métier d'électricien à Coutances, donc j'ai le droit de faire une intervention assez longue. Non, je plaisante. Non, je voulais simplement poser une question à vous, universitaires. Je suis assez frappé par le manque de curiosité. Je pense que ce n'est pas du tout propre à Coutances. Je ne suis pas du tout là pour taper à bras raccourcis sur les élus de la majorité ou de l'opposition. Mais le manque de curiosité vis-à-vis de l'extérieur. Parce que les questions de développement, d'urbanisation d'une ville de 10 000 habitants profitant d'un potentiel assez important qui est 10 km de la mer, superbe cathédrale, un patrimoine reconstruit certes, mais enfin d'une grande qualité, il se pose dans des milliers de villes dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas simplement voir ailleurs? Ça, c'est une première réflexion, parce que c'est vrai, c'est le cas. Personnellement, si j'étais élu ou en charge d'une certaine réflexion sur l'urbanisation d'une ville de 10 000 habitants, la première chose que je ferais, ce serait d'aller promener en France, en Europe, ou pour voir ce qui se fait, parce qu'il se fait forcément des choses bien. Et c'est vrai qu'il se fait des choses bien. Mon métier m'a amené à voyager un petit peu et à m'interroger sur les développements de villes. J'ai été très intéressé par la Scandinavie, où on y est allé plusieurs fois. J'ai vu ce que c'était que le développement des villes scandinaves, qui n'ont rien à voir en termes de territoire avec le bocage normand. Mais enfin, il y a une réflexion intéressante qui est menée là-bas. Après, en termes de démocratie, il y a aussi une réflexion très intéressante. Ne parlons pas de démocratie, on en a suffisamment parlé. On va pas revenir là-dessus, mais pourquoi ce manque de curiosité? Et autre chose, un autre point, c'est plus un sentiment ou une anecdote. Quand je suis architecte, donc j'ai fait aussi des études d'urbanisme, et quand on s'installe dans une ville à l'âge de 35 ans, forcément, on observe cette ville, et on a des idées, ce qui est tout à fait légitime, mais d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être architecte ni urbaniste pour avoir des idées sur le développement de sa ville. Mais la première réflexion qu'on nous amène lorsqu'on témoigne d'une idée, c'est « mais depuis quand t'habites à Coutances ?» Et c'est vrai que c'est assez frappant. Quand on n'est pas coutancé, c'est pour ça que je déconne avec mon père qui est né à Coutances et mon grand-père qui exerçait le métier d'électricien à Coutances, quand on n'est pas coutancé ou coutancé, on est moins légitime que celui qui est là depuis trois générations pour donner une idée, c'est mon avis Delphine, une idée ou en tout cas imaginer un développement de ville. Et je crois que la richesse, elle serait peut-être là. Je crois que la richesse, elle est parmi ceux qui ont vu autre chose, qui ont vécu ailleurs, que ça soit dans une grande ville, dans une petite ville, à la limite, peu importe. Mais il y a forcément, on va pas non plus se masturber l'esprit pendant des années pour savoir ce qu'on peut faire à Coutances, entre Coutancés. Allons donc voir ailleurs. Revenons avec des idées et les choses, à mon avis, n'iront que mieux.
Le conflit, ça peut aussi être une plateforme de négociation et pas simplement un lieu de cristallisation des tensions et des problèmes. Et la difficulté de la démocratie, elle est là. Comment faire? Comment, en France, c'est-à-dire comment appréhender le conflit comme une plateforme de négociation?
Non, je voulais répondre en toute amitié à Monsieur Marie, parce qu'il y a quand même quelque chose qui me m'horripile, c'est quand Lynn parle d'un transport entre ville et front de mer. D'ailleurs, c'est pas forcément Coutainville, etc. On nous répond d'où tu parles, toi? C'est un peu ça. C'est-à-dire, Madame Lenné a demandé un transport toutes les demi-heures. Je crois pas qu'elle ait demandé toutes les demi-heures. Si elle l'a demandé, c'était un peu caricatural. Après, la question qui était posée, quand quelqu'un dit ça publiquement, ou il dit simplement, comment on peut relier nos territoires avec le front de mer. Et après, quand la réponse c'est de toute façon vous demandez l'impossible, de toute façon c'est beaucoup trop compliqué pour vous, puis de toute façon ça coûte de l'argent, puis comment vous allez le financer, et puis quelque part ça remet, on n'est jamais légitime pour poser une question. Derrière cette question, il y a exactement, moi j'ai noté les quatre points qui ont été abordés par Lionel Rougier. J'avais juste envie de repartir sur ces quatre points, enfin je ne sais pas si c'est ma conclusion, mais il y avait la question de la comparaison avec le Nord-Cotentin, la désertification des villes au profit d'une périurbanisation. Finalement, à Coutances, on est dans un schéma qui peut se comparer, c'est-à-dire un centre-ville qui perd des habitants au profit d'une périphérie, un centre-ville dont on ne sait plus très bien comment on peut le ranimer en termes de logement, de vie. On est un peu dans cette question-là. La question du développement linéaire et non plus central autour d'une ville, finalement, moi j'ai noté une question qui se pose à Coutances, c'est son lien avec les autres villes. Bon, alors, il y a eu un débat qui est un peu, pour l'instant, avorté. Je ne sais pas où il en est sur... je ne sais même pas, d'ailleurs, moi, je ne prends pas position, là, sur une deux fois deux voies entre Saint-Lô et Coutances. Coutances étant une ville du bout du monde, parce que finalement, après Coutances, c'est la mer, quoi. Donc, quand on est en bout de la chaîne, comment on vit... Donc, cette histoire de linéarité, ça a à voir avec ça. La question de la littoralisation, ben, c'était ce qui était juste soulevé dans le micro-exemple de ce soir du bus, c'est-à-dire des territoires qui coexistent et qui sont à deux vitesses, un littoral peuplé, riche, peuplé d'urbains, peuplé d'une certaine population, et un bocage, un arrière-pays, resté dans un schéma très rural et très finalement peu d'interaction entre ces deux mondes. Et finalement, par exemple, pour Coutances, ça c'est une voie de réflexion. Comment on fait pour se raccrocher finalement à notre littoral? Et puis la dernière question, la question du maillage, ben ça elle me paraît essentielle. Moi je pense pas que le fait qu'il y ait beaucoup de communes encourage, enfin qu'il y ait des micro-communes favorise la démocratie. Je pense que la démocratie locale est en panne. J'ai lu il y a 15 jours dans Le Monde qu'il y avait une étude sur la défiance des Français par rapport à leurs élus. Donc traditionnellement les Français étaient défiants par rapport à leurs élus lointains, etc., députés. Maintenant, même les élus locaux inspirent défiance aux Français. Même la confiance se perd dans l'élu local. Je le comprends tout à fait, moi. Et juste, j'ai fait une parenthèse sur le maillage. Ben ça, c'est la dernière grande question. C'est que ces territoires ne peuvent se développer que à l'aide d'un maillage. Et pour l'instant, on voit bien que la notion, par exemple, de pays, pas du tout aboutie. Ça marche pas. Actuellement, il faut sortir de la politique de clocher pour être sur une ouverture plus large. J'arrête parce que je me fais... Voilà.
Petite réaction, mini-réaction.
Non, je voulais juste redire, c'était les premiers chiffres que vous avez cités. D'abord, Coutances ne fait pas 9500, mais fait quasiment 11 000 habitants. Avec le canton, on fait 14 500. On est moins de 1000, il y a 36 000 communes en France, il y en a moins de 1000 de plus de 10 000 habitants. C'est-à-dire qu'on doit être la 930e commune de France. Donc, c'est quand même une taille moyenne, c'est une ville moyenne. Et puis, par rapport à ce que vous disiez, ça fait 20 ans que je suis ici, il n'y a pas eu une faillite, donc le tissu économique vit sur des entreprises locales, dirigées par des gens du pays, qui développent leur entreprise. Il y a un tissu très diversifié, avec une tête de pont qui est la transformation de la viande, et donc il y a quand même un gros niveau d'équipement public et dans tous les domaines, et donc... Ma conclusion, c'est de dire qu'on vit quand même bien dans une ville de 10 000 avec ce niveau d'équipement-là et on vit bien en Basse-Normandie, c'est tout. Vraiment bien.
Quand vous êtes la région qui est dernière en recherche et développement, la région qui a des problèmes de connectivité, la région qui a des problèmes d'émiettement, enfin, vous êtes la première région en périurbanisation actuellement, vous êtes la région qui a le moins de capacité à maîtrise foncière, alors on peut continuer à considérer que tout va bien, Madame la Marquise, et puis on verra dans 25 ans. Et je trouve que c'est difficile, que vous avez du mal à vous en saisir et c'est dommage.
Bon, eh ben, je vous invite à continuer la discussion autour d'un pot en off, hein, d'accord ? Nous, on va terminer, c'est pas fini, on va demander à Vincent Legrand de nous faire la synthèse des cafés, s'il en est encore d'accord.
Merci, je vais essayer de synthétiser un débat qui n'est pas simple à synthétiser parce qu'évidemment, les positions sont très tranchées. Tout le débat de ce soir montre bien qu'il y a une distance ou une dichotomie entre la ville et ce qu'elle est et la ville telle qu'on la perçoit. C'est d'ailleurs très, très simple. Coutances est une ville qui demeure. On a fait beaucoup de références à la Révolution, à l'histoire, au patrimoine. On a donc l'impression d'une forme d'immobilisme. Et puis, en même temps, on a des individus qui passent, qui arrivent, qui viennent, qui vont, qui reviennent parfois, même s'ils n'avaient pas l'impression qu'ils étaient en mesure de revenir un jour, et donc qui se retrouvent confrontés à cette forme d'identité. Et comment, à des étapes de vie différentes, finalement, ce rapport à l'identité peut effectivement évoluer. Ce rapport à l'identité, il me semble très intéressant. Donc, du point de vue de la perception des individus, on a dit Coutances, c'est le théâtre, c'est le train, c'est effectivement le lycée, c'est évidemment son festival. Et puis, l'identité de ce territoire, c'est aussi parfois même la prison. Et qu'on en vient à regretter, c'était un élément qui a été abordé en début de discussion, la disparition de cet élément d'identité, même si je suis bien d'accord qu'un territoire peut être identifié autrement qu'à travers les éléments qui permettent d'enclore les individus qui y habitent. Cependant, Je sens bien aussi que derrière ça, il y a la critique du politique et de l'administratif, et que la posture de l'élu et de l'administratif qui sert techniquement l'élu, parce que c'est effectivement la fonction d'un technicien, hein, d'un administratif, de servir l'élu, est difficile, parce que vous avez mis deux fois le doigt sur le rapport à la démocratie. On a des problèmes d'administration, de gouvernance, qui font qu'à un moment donné, on a une déformation du prisme de la démocratie, qui fait que quelqu'un qui arrive à avoir 30% des voix dans les urnes n'a pas 30% des sièges dans l'Assemblée, parce qu'à un moment donné, une Assemblée se gouverne et qu'elle doit faire des choix, qu'elle doit avoir un budget, qu'elle doit avoir des services, et que de ce fait, elle va aussi être le vecteur de cette forme d'identité. Et c'est la raison pour laquelle le discours municipal va se cristalliser essentiellement sur le patrimoine, l'art de vivre, la manière dont la ville est et demeure. Face à des aspirations d'individus qui, de ce fait, et on l'a vu, sont très diverses, puisque les individus, eux, bougent et ont des sensibilités qui, à l'égard de la ville, changent. Le vrai problème d'habiter Coutances, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'habiter ? Habiter, c'est à un moment donné choisir un territoire. C'est se dire, voilà, je m'installe, je me pose. Peut-être est-ce un choix aléatoire, parce que j'ai choisi une crèche, parce que j'avais besoin d'y accueillir mes petits-enfants, que sais-je encore. Mais ce territoire, finalement, à un moment donné, je vais l'envisager à travers mes besoins. Et finalement, ces besoins, ce territoire n'est peut-être pas complètement en mesure de les satisfaire. Ai-je besoin d'aller si souvent à la mer ? Ai-je besoin d'accueillir mes enfants avec des bus près de l'église, alors que la cathédrale est effectivement un monument remarquable ? On va donc avoir une contradiction, et je pense que le débat de ce soir était un élément de cette contradiction entre les besoins qui sont forcément hétéroclites, qui sont variables au long de la vie des individus qui habitent Coutances, et la capacité de ce territoire à y répondre. Et cette réponse, elle ne peut venir effectivement que d'un équilibre entre la capacité des individus à revenir sur leurs besoins, à ne pas estimer que la ville ou le territoire est capable de remplir et de satisfaire l'entièreté de ses besoins, de se dire si j'ai choisi Coutances, bien il y a peut-être aussi des éléments dans lesquels il va falloir que je revienne, sur lesquels je reviendrai. Et en même temps, la ville doit être à l'écoute effectivement de cette aspiration à la multiplicité, à la diversité, au changement. Et évidemment, ce discours-là, le fait de se parler, on l'a dit en commençant, est un élément qui rapproche déjà ces deux équilibres. Voilà.
Merci Vincent. Alors, je voulais terminer par des remerciements. Donc, remercier Delphine Fournier, Nicole Mathieu, Lionel Rouget, Ronald Minou, qui est notre ingénieur du son, Anne Lacheret pour ses belles affiches, le gérant du poulailler et le patron du poulailler, c'est-à-dire le propriétaire, les Coutançais pour leur accueil, le public pour sa participation, bien sûr, et Vincent Legrand pour sa belle synthèse. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée.